Bonjour, c'est Franck Ferrand. Vous aimez forcément les histoires, vous vous apprêtez à en écouter une. Eh bien, je voudrais vous parler d'un programme passionnant, La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels, la référence en la matière. On y évoque des bijoux de sentiment, de pouvoir, des joyaux mythiques, fascinants, romantiques, leurs secrets, leurs légendes. Découvrez l'histoire du grand diamant bleu de Louis XIV et celle des grilles de mariage de Rihanna. Pour sa 4e saison, La Voix des Bijoux s'intéresse aux liens tissés entre bijoux et bande dessinée. La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers, est disponible en français et en anglais sur toutes les plateformes.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Dans la famille d'Aquitaine, je demande la fille, ou plutôt la petite fille. La fille unique est donc l'héritière de Guillaume X, duc d'Aquitaine. Aujourd'hui, on parlerait d'une très riche héritière. La petite fille, surtout, de Guillaume IX. Guillaume IX, le troubadour, aussi puissant seigneur que grand littérateur, puisqu'on le considère comme le premier poète de langue occitane. Comment s'étonner que cette petite personne sur le berceau de laquelle se sont penchées toutes les fées ait fini par devenir successivement reine de France, puis reine d'Angleterre, et comment douter qu'elle ait été en position de jouer un rôle très important dans l'évolution de la politique de son temps et même dans l'évolution des mœurs au Moyen-Âge. Aliénor vit à une période charnière, vous voyez, période où l'on passe du roman au gothique, de la féodalité à la royauté, du primat de la force à celui de la courtoisie, en tout cas sur le papier. N'oublions pas que nous sommes à la grande époque des trouvères en langue d'Oïle et au-delà du grand-père de la demoiselle, des troubadours en langue d'Oc, la belle époque des cours d'amour dont j'aurai l'occasion de vous redire un mot. Aliénor a 15 ans, tout juste, quand son père, Guillaume X, qui est une sorte de géant, il a 38 ans, Guillaume, quand il vient à mourir sur le chemin de Compostelle. La voilà donc orpheline et d'autant plus vulnérable qu'elle hérite de cet énorme duché d'Aquitaine, de ce fastueux territoire. Avant de rendre l'âme, le duc a quand même eu le temps de dépêcher un messager à son seul suzerain. Son suzerain, c'est le roi de France, le roi Louis VI. Et Guillaume a confié à Louis sa fille, avec charge à lui de trouver un époux digne d'elle. Et l'époux en question, ce sera le propre fils du roi. Louis VI se frotte les mains puisqu'il se dit que l'alliance est très très avantageuse. Tout ça est rondement mené. Et donc, c'est un mariage d'héritiers qui est célébré en 1137 dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Une jeune orpheline, donc 15 ans, qui apporte dans sa corbeille nuptiale Loiries d'Aquitaine, vous imaginez autant dire tout le sud-ouest de l'actuelle France. Elle est unie devant Dieu à un jeune prince de 17 ans qui est appelé à hériter de son côté la couronne de France. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les ducs d'Aquitaine ont beau être les vassaux des rois de France, ils sont à la fois bien plus riches qu'eux, 5 fois mieux pourvus en territoire et surtout qu'ils se trouvent à la tête de cités très brillantes. Bordeaux, Toulouse, Clermont, un état latinisé ouvert sur l'Orient, porteur d'une culture nettement plus raffinée que celle du petit état capétien là-haut dans ces brumes de la région de Paris. Ce qu'on appelle la France à l'époque, c'est grosso modo l'Île-de-France, avec quelques centres marchands, Paris, Mantes, Senlis, Melun, qui sont encore de gros bourgs de campagne, alors que Bordeaux, Toulouse, vous imaginez, et Poitiers, bien sûr. Il semble que nos deux tourtereaux se plaisent l'un à l'autre. Ils sont jeunes, ils ont la vie devant eux, ils remontent vers Paris, ils sont à peu près à mi-chemin, ils entrent justement dans la bonne ville de Poitiers par le pont de Montierre-Neuf, quand un messager à cheval leur apporte une nouvelle fracassante. Le roi de France, le roi Louis VI, le père du prince Louis qui vient d'épouser Aliénor, le roi vient de mourir. Et les voilà donc, après seulement quelques petites semaines de mariage, les voilà propulsés sur le trône, place au roi Louis VII et à sa jeune épouse, Aliénor de France.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors il faut que je vous dise la vérité, c'est que sous la façade de ce jeune couple heureux se cache une grande divergence de caractère entre Aliénor et son mari. Lui est un jeune homme pénétré de religion, qui se destinait d'ailleurs à la vie monacale lorsque la mort de son frère aîné l'a obligé à devenir héritier du royaume de France et finalement roi, le roi Louis VII, extrêmement religieux, extrêmement austère, qui voue son existence à la politique désormais. Et en face, vous avez cette jeune fille qui arrive d'Aquitaine avec son accent du Midi. Elle est légère, elle est coquette, un petit peu hérétique, il faut bien le dire. Elle veut profiter de sa jeunesse et mordre la vie à belles dents. Et en plus, elle est une jeune reine. Vous imaginez toutes les possibilités que ça lui offre. Ce roi, d'un côté, confie en bondieuserie, et qui passe son temps dans le jeûne et la pénitence, qui se flagelle du matin au soir. Et puis, elle qui, au contraire, veut des plaisirs. Et pour épancher son énergie, la reine va entraîner son époux dans toutes sortes de conflits. Alors avec le comte de Toulouse et le comte de Champagne et l'évêque de Bourges, et ça n'en finit plus, elle n'a que des ennemis de toute façon. Or, les mois et les années vont passer sans que le moindre enfant ne vienne couronner cette union. Et c'est un énorme problème. La reine fait pourtant acte de contrition. Elle s'en remet au plus pieux des pieux de l'époque, au célèbre Bernard de Clairvaux, qui lui promet un enfant. Et de fait, elle va bientôt être enceinte. Tout le monde attend. Malheureusement, vient au monde une petite fille. Je dis malheureusement pour l'époque, bien entendu, et dans le contexte de la loi salique, hein, une petite Marie. Pas de descendance pour le moment. Or, le même Saint Bernard s'en va bientôt prêcher la deuxième croisade et Louis VII s'en dispenserait bien de cette idée de croisade, sauf que son épouse va le pousser dans l'aventure. Et tous deux finissent par rejoindre d'autres princes sur la route de l'Orient à la tête de toute une armée de croisés. Nous sommes là au printemps 1147. Voici donc le couple royal arrivé à Antioche, où ils sont les hôtes du prince Raymond de Poitiers. C'est un jeune oncle d'Aliénor qui passe pour le plus bel homme de son temps et... on peut dire que la nièce n'est pas insensible au charme du tonton. Elle va même carrément succomber. Certains historiens, en tout cas, nous disent qu'elle devient sa maîtresse. Ce qui est certain, c'est que la reine, en tout cas, prend le parti de Raymond de Poitiers contre le roi Louis en personne, vous imaginez. Et Raymond estime à l'époque qu'il est urgent d'aller reprendre Édesse. Édesse, c'est la cité clé des croisés, hein, sur laquelle les Turcs viennent de faire main basse. Or, le roi Louis, lui, n'écoute que sa foi et son envie irrésistible d'aller prier à Bethléem, à Jérusalem. Il ne veut pas entendre parler d'Édesse. Aliénor en a assez. « Je pensais épouser un homme, j'ai épousé un moine », lâche-t-elle. Et puisque le roi ne veut pas soutenir l'action du prince Raymond, eh bien elle le fera, elle. Et on la voit se mettre en route à la tête de ses propres chevaliers aquitains. Heureusement, pour être religieux, Louis VII n'est pas candide. Et avant que sa femme n'ait donné prise à ce qui deviendrait un scandale dans toute la chrétienté, il décide de l'enlever. Mais oui, comme ferait un bandit de grand chemin, c'est quand même romanesque, hein, l'existence d'Aliénor d'Aquitaine. Son mari l'enlève, la ramène avec lui vers la France. Ils vont quand même voguer sur des bateaux séparés. Or, l'esquif de la reine est capturé par une escadre byzantine. Ce sont des Normands qui vont la délivrer dans des circonstances rocambolesques et la ramener à son mari qui l'attendait en Italie. Parvient alors la nouvelle de la mort de Raymond de Poitiers, mort au combat. Aliénor est désespérée, elle tombe malade. Le moment est pour une réconciliation entre les époux, sauf que le pape est arrivé et que lui ne veut pas entendre parler de ces histoires de deuil, etc. Le pape va pousser les époux dans le même lit et dès son retour en France, Aliénor va donner le jour à un second enfant, encore une fille. Un extrait de la suite Henri V de Sir William Walton par l'orchestre Philharmonia sous la direction du compositeur lui-même.
Vous écoutez Radio Classique.
Soyons francs et lucides. Aliénor ne veut plus de ce mari, elle ne veut plus de ce mariage. Pour elle, tout ça est révolu. Elle va se mettre déjà en quête d'un nouvel époux et c'est là qu'entrent en scène les comtes d'Anjou, le père et le fils. Alors, qui sont-ils? Ces Plantagenets, suzerains d'un vaste territoire entre la Loire et la Seine. Le mariage du père Geoffroy avec la petite fille de Guillaume le Conquérant lui a donné la Normandie, vous imaginez, c'est un très très puissant seigneur là dans l'ouest du royaume de France. Or, l'ambition des Plantagenets n'a pas de limite et Geoffroy, avec son fils Henri, nourrit des prétentions importantes sur la couronne d'Angleterre. Quand est-ce que Aliénor a fait leur connaissance? Apparemment en 1151. Les Plantagenets sont venus à Paris pour régler un conflit qui réclamait la présence des grands seigneurs à Paris. Aliénor les a sans doute trouvés à son goût. Geoffroy Plantagenet est ambitieux, il est énergique. Il est comme son fils un fin lettré. Seulement voilà, en septembre de cette même année, Geoffroy se baigne une fois de trop dans une rivière glacée. Il contracte une pleurésie, bref, il meurt très vite. Après tout, ce n'est pas si grave. La reine de France en tire les conclusions. Le père ayant disparu, elle va reporter ses attentions sur le fils. Aliénor a quand même plus de 10 ans de plus qu'Henri Plantagenet, mais elle n'est pas à sa près. En plus, elle est si belle, elle est si drôle, elle est tellement sûre d'elle. Alors, quand même, il y a un petit problème pour le moment, c'est qu'elle est mariée, et qui plus est, mariée au roi de France. Reste donc à convaincre Louis VII d'accepter l'annulation de ce mariage qui, à l'évidence, est désormais sans avenir. Il se trouve que Louis et Aliénor sont apparentés, il y a un vague cousinage entre eux, mais c'est suffisant pour les juristes, ils vont pouvoir plaider l'annulation. Louis VII se prête au jeu. Naturellement, lui ne sait pas du tout qu'elle a déjà l'intention de se remarier, son épouse, bien sûr. Le voilà qui réunit à Beaugency un concile, et pour les rameaux, les évêques prononcent l'annulation. Et aussi sec, Aliénor regagne ses terres d'Aquitaine. Elle dit rapidement au revoir à celui qui a été son mari, et elle vient s'installer dans sa ville, elle vient s'installer à Poitiers. 2 mois plus tard, on annonce son mariage, en grande pompe, dans la cathédrale de Poitiers, qui vient tout juste d'être achevée. Mariage avec le jeune duc d'Anjou, fête absolument somptueuse, au vin de Bordeaux, bien entendu, qui déjà coule à flot. Vous imaginez la stupéfaction à Paris de la cour et la colère du roi Louis. Alors comme ça, elle l'a quitté pour aller épouser un autre et un jeune homme qui plus est. Eh bien, elle va voir. Henri se trouve à Barfleur. Il est prêt à traverser la Manche pour aller détrôner le roi d'Angleterre à l'époque. Le roi de France en profite pour l'attaquer sur ses terres, en Normandie, et pendant 6 semaines, ce sont des combats terribles qui vont opposer le duc d'Anjou au roi de France. Combat au terme desquels l'Angevin se révèle assez fort pour imposer la paix à son propre suzerain, qui en même temps est son rival malheureux, j'ai envie de dire deux fois malheureux. Dès l'hiver de cette même année, Henri Plantagenet est également vainqueur du roi d'Angleterre et le roi le désigne comme son successeur. Ce roi Étienne meurt moins d'un an plus tard, au moment même où Aliénor donnait un premier fils à son nouveau mari. Elle peut remercier le ciel. Ses plans ont réussi bien au-delà des espoirs les plus fous qu'elle aurait pu former. Elle vient de laisser la couronne de France. Eh bien voilà, elle ceint déjà la couronne d'Angleterre. Et du même coup, c'est tout l'ouest de la France actuelle, depuis le Cotentin jusqu'aux Pyrénées, qui bascule dans le camp de celle qui est désormais reine d'Angleterre. Il est dit que les battements de cœur d'Aliénor auraient des conséquences phénoménales sur l'histoire. C'est un peu l'histoire du nez de Cléopâtre, vous savez. Aliénor est amoureuse de son jeune époux qui le lui rend bien. Les naissances vont se succéder, qui affermissent la dynastie à coups de petits princes. Et en pratique, tandis qu'Henri II administre ses états au nord, Aliénor, elle, se trouve de l'autre côté de la Manche et elle gère les anciennes possessions dynastiques. Elle redevient une sorte d'hyper-duchesse d'Aquitaine qui s'installe donc à Poitiers. Poitiers qui devient la ville brillante de l'Occident de l'époque. Elle institue là ses fameuses cours d'amour, des tribunaux courtois où les dames sont censées juger avec le cœur et l'esprit des causes amoureuses, imaginaires, parfois très alambiquées. C'est une sorte de nouvelle culture qui est en train de se faire jour grâce à à Aliénor et sous l'égide de des licornes de la fable. Il faut aller à Poitiers dans la salle des pas perdus de ce qui était il y a peu de temps encore le palais de justice pour voir l'architecture de cette salle qui existe encore et où l'on peut imaginer Aliénor au milieu des soieries de son temps trônant à la tête de sa cour d'amour. Aliénor va tout gâcher pourtant parce qu'il y a toujours en elle cette soif de pouvoir, cette volonté de dominer tout le monde. Et ça l'amène là encore à la rupture, y compris avec son nouveau mari, surtout quand elle découvre qu'Henri la trompe. Eh oui, Henri Plantagenet est un véritable coureur. Il ne prend même plus la peine de cacher ses maîtresses, dont certaines ont la moitié de l'âge d'Aliénor. Il faut dire qu'en 1166, elle a déjà 46 ans quand même, ce qui pour l'époque est vraiment beaucoup. Le roi, lui, n'en a que 35, alors... Forcément, en dépit de toute son intelligence, la reine peine à accepter la situation. Elle essaie de se faire une raison, mais non, elle enrage. Elle enrage de voir son mari épris maintenant d'une certaine Rosemonde de Clifford. En 1169, les trois premiers fils qu'elle a eus avec Henri sont déjà presque des petits hommes. En tout cas, ils ont l'âge de raison. Henri, qu'on appelle Henri le Jeune, à 14 ans, Richard Cœur de Lion, à 12 ans, Geoffroy en a 11, et par conseiller interposé, Aliénor va convaincre son mari que le moment est venu de les établir, c'est-à-dire de remorceler le bel empire de l'Ouest, constitué par le fameux mariage. La Normandie, le Maine, l'Anjou vont aller à l'aîné des princes, l'Aquitaine et le Poitou sont confiés au cadet, donc à Richard Cœur de Lion, et puis le troisième va hériter de la Bretagne. Henri ne voit pas le danger. Hein. Tous ses garçons, après tout, sont ses propres fils, bien aimés. Il va faire mieux que ça même, puisqu'en 1170, selon l'antique coutume des rois francs, il va faire couronner son fils Henri à Westminster, par anticipation. C'est dangereux ça, monsieur. Depuis Poitiers, où elle manigance tout dans l'ombre, Aliénor peut ricaner. Son époux a donné dans le panneau. La Sarabande de Claude Debussy, orchestrée par Maurice Ravel, l'Orchestre National de Lyon était sous la direction de Leonard Slatkin.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il y a en 1171 ce grand conseil à Limoges où le fils aîné, il a 18 ans maintenant, va s'opposer ouvertement à son père sur la question de la dotation du dernier des frères, hein, le petit Jean, qui n'a pas de territoire, c'est pour ça qu'on l'appelle Jean sans terre. Le père tombe des nues, il se tourne vers son épouse qui, évidemment, a tout manigancé, c'est un petit coup d'état qu'elle a préparé. Il décide de reprendre le fils aîné, donc Henri le Jeune, sous sa coupe. Mais un beau matin, à Chinon, le jeune Henri va fausser compagnie à son père, courir chercher refuge. Je vous le donne en mille auprès de l'ancien mari de sa mère, auprès du roi de France, Louis VII, qui entre nous savoure sa revanche. Quand Richard et Geoffroy gagnent à leur tour la cour du premier mari, Henri décide de relever le gant. Il réunit une armée, il descend vers l'Aquitaine. Aliénor, sans le vent tourner, de nuit, elle est déguisée en homme. Elle quitte Poitiers comme ça, en pleine nuit, au milieu d'une petite bande de cavaliers et galope en direction de Paris, où elle va être accueillie par celui qu'elle avait quitté 20 ans plus tôt. Les soldats de son second mari arrêteront sa course avant qu'elle n'arrive, hélas. Et elle ne connaîtra pas ce moment un peu étrange où elle serait devenue la réfugiée, l'hôtesse de son ancien mari. Elle va être jetée en prison par Henri II d'Angleterre, et elle va moisir pendant 15 ans dans toutes sortes de geôles, des monastères, des châteaux forts. C'est seulement en 1189, au moment où Henri II, las de se battre contre ses propres fils, finira par se laisser mourir, c'est seulement en 1189 que la reine recouvrera sa liberté. Et pour elle, c'est un second moment de grâce. Elle a 67 ans à l'époque, mais elle est toujours bon pied, bon œil. C'est elle qui règne, en vérité, à travers son fils Richard Cœur de Lion. L'aîné est mort, pour tout vous dire. Aliénor a toujours préféré Richard. Elle le surnomme le Poitevin. Il est resté toujours très proche d'elle. On dit qu'il a même un peu vécu dans les jupons de sa mère, au point qu'ils vont former tous les deux une sorte de couple sur le trône d'Angleterre, le fils et la mère. Elle l'encourage, comme elle avait fait pour Louis VII, à partir pour la croisade en compagnie de Philippe II de France, celui que nous appelons Philippe Auguste. Et pendant toute l'absence de Richard Cœur de Lion, la vieille reine va réussir encore, je dis la vieille reine, elle a 70 ans encore une fois, mettez-vous dans le contexte de l'époque, elle réussit à déjouer tous les piège d'un pouvoir dangereux. Elle presse son fils de rentrer quand même, parce qu'elle est exténuée seulement en 1192. Elle apprend la terrible nouvelle. Richard, sur le chemin du retour, a été fait prisonnier par un prince allemand. Et la rançon demandée est énorme, 34 tonnes d'argent fin. Eh bien, chose inouïe. On va voir la vieille reine remonter à cheval, faire le tour de tous ses vassaux et réunir cette somme gigantesque qu'elle ira porter elle-même à l'empereur. Le 2 février 1194 à Mayence, Richard lui est rendu. Une fois encore, elle a triomphé de l'adversité. Alors par la suite, et tandis que la guerre de nouveau fait rage entre l'Angleterre et la France, elle se retire en l'abbaye de Fontevraud. Et il faudra la mort de son fils lors d'une banale opération de police, la mort de Richard Cœur de Lion qui est atteint par un carreau d'arbalète. Il faudra cette mort pour la tirer de sa retraite.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et la mort de ce très cher Guillaume tire Aliénor de ce qu'elle-même pensait être la fin tranquille d'une vie dans un refuge monastique merveilleux, celui de Fontevraud. La revoilà donc qui reprend du service, elle est de nouveau en selle et se lance dans une vaste tournée de sa chère Aquitaine, puis elle se rend dans la bonne ville de Tours pour faire hommage au roi Philippe de France, sa dernière chevauchée. La vieille reine l'effectuera en l'an 1200, elle a 77 ans maintenant, pour aller traverser les Pyrénées en vue d'aller chercher une épouse au prince héritier de France parmi ses petites filles castillanes. C'est Régine Pernoux qui a été biographe d'Aliénor et qui nous le raconte. Peut-être Aliénor, après les deuils successifs qui venaient de l'accabler, était-elle heureuse de revoir la seule de ses filles qui lui resta, Aliénor d'Angleterre. Mais on peut voir aussi dans cette démarche, entreprise dans des conditions si difficiles, autre chose que le simple désir de se retremper dans une atmosphère familiale. Aliénor agit à la fois en mère et en reine. Et dans son acte apparaît clairement, nous dit Régine Pernoux, le souci de contribuer de toutes ses forces à la paix du royaume d'Angleterre. Et parmi ses petites filles, il y en a deux qui sont prêtes à convoler. L'aînée, donc la favorite, qui a 13 ans, qui s'appelle Urraca en français, et la cadette qui a 12 ans et qui, elle, répond au prénom de Blanca, Blanche, Blanche de Castille. La grand-maman va préférer Blanche simplement parce que son prénom est plus agréable à prononcer en français. Voilà à quoi tient parfois un destin. De son côté, le dernier fils d'Aliénor, Jean, qu'on appelait autrefois Santerre et qui maintenant règne comme il le peut sur une Angleterre turbulente, va se révéler très imprudent. Il perd la Normandie, qui réintègre finalement le royaume de Philippe Auguste. Et c'est à l'annonce de cette nouvelle calamiteuse qu'Aliénor, qui de nouveau s'est retiré à Fontevraud, après une ultime chevauchée, se laisse mourir le 31 mars 1204. De quoi Aliénor d'Aquitaine est-elle morte? De tristesse, pourrait-on dire, ou de lassitude?
Vous écoutez Radio Classique.
en cette journée de la femme, l'une des plus grandes femmes de l'histoire, Aliénor d'Aquitaine, qui fait l'objet d'un numéro spécial d'Historia qui est actuellement dans les kiosques, le numéro sur Aliénor d'Aquitaine avec tous les plus grands spécialistes, notamment Martin Aurel, pas seulement, sous la direction de Victor Batagion, on évoque Aliénor sous tous ses aspects. Écoutez, c'est bien simple, il y a deux natifs de Bordeaux qui sont extrêmement célèbres, la première c'est Aliénor et le second c'est Christian Morin. Bonjour
comme
Christian.
Comme disait Jean d'Ormesson, bonjour Franck, j'ai très bien connu Aliénor d'Aquitaine, bien sûr. Aliénor d'Aquitaine, apparemment, sur la couverture de ce numéro spécial Historia, on la présente comme une très belle femme.
Oui, alors c'est un portrait tout à fait fantaisiste, hein, qui est un portrait du 19e siècle. On n'a pas de portrait d'époque d'Aliénor, mais ce qui est certain, c'est que pour avoir été qui elle est, il fallait qu'elle fût vraiment très belle, je crois.
Téléphonez-moi, j'ai des photos.
Ah bon, mais alors ça m'intéresse.
Merci mon cher Franck. Cet après-midi, la prémonition du maréchal de Marsin sera évoquée par Franck à 14h. Je vous souhaite un excellent week-end.
Bon week-end à tous. Et on se...